quand les jeunes royens prennent le micro.
Radio quand les jeunes royens prennent le micro.
Miam miam miam.
Hello tout le monde, j'espère de tout cœur que vous passez un bon moment en compagnie du Radio Campus Amiens.
Oui, je pense qu'ils sont contents d'être là.
Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet sympa.
Même très sympa.
Même très très sympa.
Oui, bon, c'est bon là. Manger, c'est la vie, mais il faut tout de même faire attention à ce que l'on mange. Donc justement, nous allons vous parler du bon régime alimentaire afin d'être en bonne santé.
Radio, quand les jeunes royens prennent le micro.
Mangez-vous 5 fruits et légumes par jour ?
Pas 5, mais 3, oui, sûr. Légumes, oui, aussi.
Alors 5, je les compte pas, mais j'en mange tous les jours, oui.
Oui.
Oh ben c'est bon.
Si possible.
Je mange souvent des légumes à midi, tu vois, c'est carottes, pommes de terre. Alors, voilà, je mange des légumes. Oui, midi, de c'est souvent
moi,
des légumes.
Moi, je mange plus de fruits que de viande. Ça, c'est sûr.
Que pensez-vous des fast-foods ?
Ça dépend lesquels. J'ai toujours des préférences. Après, moi, je préfère manger sainement, donc...
Nous pouvons nous faire plaisir, mais sans excès. Notre alimentation est basée sur les fruits et les légumes, les féculents, les protéines, donc la viande, le poisson...
Stop
le...
On a les aliments les plus importants. Tiens, je vais vous parler des fruits et légumes.
D'accord, si tu veux. De toute façon, je n'avais plus d'idée.
Les fruits et légumes sont ultra, méga, giga importants dans notre alimentation.
Dis donc, je ne pensais pas qu'ils étaient aussi importants.
Oui, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Le mieux est de manger des fruits et légumes de saison. Je vais vous donner quelques exemples. En hiver, carottes, betteraves, épinards, clémentines, kiwis, pommes, poires, etc. En fruits et légumes d'été, il y a la fraise, l'artichaut, les concombres, les radis...
Oh ça, j'adore avec un petit peu de sel.
Le melon, la salade, la pêche, il y en a encore plein d'autres.
Mais Anna, pourquoi il faut manger des fruits et légumes de saison ?
Très bonne question, je vais t'expliquer. Manger des fruits et légumes de saison apporte plus de nutriments à notre corps, par exemple les vitamines. C'est donc plus intéressant pour notre santé. L'orange, par exemple, apporte de la vitamine C.
Ah, ça tombe bien, j'adore les oranges. Mais tu sais que les fruits et légumes de saison sont plus riches en goût. Et pour la viande, y a-t-il des choses particulières à retenir ?
Non, pas grand-chose. Il faut juste ne pas en abuser. Une fois par jour, c'est suffisant. Trop de protéines, pas terrible. Le soir, manger un repas plus léger. La viande, achetez-la en label rouge. Cela veut dire que les animaux ont été élevés en plein air. Mathilde, je me demandais, est-ce que manger des plats préparés, c'est si grave que ça ?
Oui et non. Vous pouvez en manger quelques fois, mais sans excès. Je vais vous donner quelques petits conseils. Si vraiment vous êtes mal pris et que vous devez acheter un plat préparé, regardez le Nutri-Score. Sinon, vous prenez un petit peu de temps, un dimanche par exemple, et vous préparez tous vos petits plats pour la semaine. Vous les mettez dans un tupperware et vous les mettez au frigo. Comme ça, le soir, quand vous rentrez du boulot, c'est prêt.
Pas mal. Parlons maintenant petite gourmandise. Par exemple, moi j'adore le chocolat. Que pourrais-tu me conseiller pour toujours en profiter sans que ça impacte ma santé ?
Alors Anna, en fait le chocolat, comme tout d'ailleurs, ce n'est pas la mort d'en manger. C'est juste qu'il ne faut pas en abuser. Petit conseil, privilégiez le chocolat noir qui est plus riche en cacao.
Mais le chocolat au lait, c'est la vie ! En plus, les petits lapins de Pâques, j'adore !
Voici l'avis d'une spécialiste.
Miam, miam, miam.
Bonjour Béatrice Collin.
Bonjour.
Je m'appelle Mathilde et avec Anna, on aimerait vous poser quelques questions. Pour commencer, pour vous, quel est le repas idéal ?
En fait, ça dépend de ce que vous avez déjà mangé dans la journée. Mm-hmm. Et en fait, le repas du soir va contribuer à équilibrer l'ensemble de la journée. Mm. C'est-à-dire que par exemple, si le midi vous avez mangé des féculents, le soir vous allez manger plutôt des légumes verts.
Est-ce que pour vous, le goûter, c'est bon pour notre croissance ?
Ça dépend comment il est composé, votre goûter. Si la base de produits laitiers, c'est très bien, mais si c'est que des sucreries, des viennoiseries, c'est que du sucre et du gras. Et du coup, pour la croissance, ça va pas être une croissance en hauteur, ça va être une croissance en largeur.
Pour vous, le fast-food, c'est à bannir de notre alimentation ou pas ?
Pas forcément, parce que dans les fast-food, on trouve certaines choses qu'on peut intégrer dans l'alimentation sans problème. Après, ça dépend de la fréquence du fast-food. Si vous y allez tous les jours, c'est pas bon. Si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci.
Mmh, d'accord.
Quels sont les clichés de bonnes habitudes alimentaires que vous entendez régulièrement ?
Alors, les bonnes habitudes alimentaires, souvent, dans les clichés, quand je demande aux gens ce qu'ils mangent, ils pensent, par exemple, en me disant que le matin, ils prennent des céréales au petit déjeuner, que c'est très très bien. Et c'est pas vrai. Après, Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils prennent de l'huile d'olive, enfin, des choses comme ça, c'est souvent ce qui revient. Du poisson, où ils mangent beaucoup de fruits et légumes, parce que ça rappelle le slogan des 5 fruits et légumes par jour.
Quels sont les principaux problèmes alimentaires que vous rencontrez à travers vos patients ?
Alors moi, comme j'ai des patients essentiellement âgés, actuellement, c'est surtout de la dénutrition. Et c'est souvent aussi du diabète.
Trouvez-vous que les gens sont assez sensibilisés ?
Alors, ils ont des connaissances, mais ils n'appliquent pas. Ça, c'est le problème. En fait, il y a l'équilibre alimentaire, puis il y a la gourmandise. Donc, voilà. Et après, il y a aussi un autre phénomène qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est le problème financier. Et qui fait qu'il est bloquant pour acheter des produits de bonne qualité. Et on sait, par exemple, que les produits gras et sucrés sont moins chers. Donc les gens vont s'orienter vers des produits moins intéressants pour eux.
Pensez-vous que le confinement a changé l'alimentation des personnes ?
Alors, pendant le confinement, oui, parce qu'ils ont beaucoup fait de pâtisseries. Ils ont beaucoup cuisiné. Maintenant, dans le temps, je pense pas. Je pense qu'ils sont revenus aux vieilles habitudes qu'ils avaient avant.
Ouais.
Après, il y en a beaucoup quand même qui jardinent maintenant. D'ailleurs, tous ceux qui avaient un jardin, qui se sont trouvés chez eux enfermés et quelquefois avec pas la possibilité de s'approvisionner comme il faut, il y a beaucoup de gens qui ont développé un jardin et beaucoup de gens qui ont mis des poulaillers aussi.
Bah, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Mais de rien.
Radio, quand les jeunes royens prennent le micro.
Si je résume ce que vient de nous expliquer Madame Collin,
le tout est de manger varié et n'oubliez pas, il faut manger mais sans gaspiller.
Campus Amiens 87.7.
Bonjour, je m'appelle Bella et on va parler du réchauffement climatique puisque c'est un phénomène qui devient de plus en plus présent. Pour en parler, j'ai demandé à 2 personnes qualifiées de répondre à mes questions. On commence avec Valérie Marette, conseillère municipale, déléguée en charge du développement durable. Ensuite, je reçois Jordan Méchaud, employé de la ville de Roye dans le service des espaces verts et il est spécialisé dans la biodiversité.
Le réchauffement climatique, eh bien, le réchauffement climatique, c'est le changement du climat qui fait que les glaciers sont en train de fondre, que les températures augmentent et que ça perturbe un peu notre équilibre écologique.
En quoi l'homme est-il responsable ?
Alors l'homme, en fait, il modifie tous les milieux. Et du coup, tout ce qui est équilibre, comme les courants océaniques ou la pluie dans les grosses forêts tropicales, en fait, tout est modifié. Et du coup, on casse ces équilibres. Donc l'homme, il est pour une grande partie, donc déforestation, mais aussi tout ce qui est pollution, des eaux, de l'air, etc.
Qu'est-ce que la biodiversité ?
La biodiversité, c'est préserver toutes les espèces, les insectes, les animaux, les plantes, tout ce qui peut exister dans la nature et avec les espèces. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des espèces en voie de disparition.
Si, oui.
Ben voilà, et la biodiversité, en fait, c'est essayer de maintenir cette diversité biologique qui nous entoure en la protégeant.
Qu'est-ce qui est mis en place dans notre ville pour tenter de sauver la biodiversité ?
Alors, dans notre ville, eh bien, on a planté quand même pas mal d'arbres indigènes dans notre région, des haies. Donc, en fait, c'est tous des réservoirs de vie qui vont être là pour les insectes, les oiseaux, etc. Et donc, c'est important de planter des végétaux adaptés à nos régions. Mais on a aussi, depuis 2014, arrêté l'utilisation des produits phytosanitaires. Et ça permet énormément aussi aux petites herbes et aux insectes de vivre.
Est-ce qu'il y a des mesures que l'on peut prendre en tant que Royan pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Oui, on peut faire plein de choses. Eh bien, déjà, il faut essayer de limiter son impact, c'est-à-dire sa consommation. C'est-à-dire, ben, par exemple, toi, ton niveau, tu as quel âge ?
J'ai 10 ans.
10 ans. Donc, ben, c'est par exemple privilégier les déplacements à pied, pour aller à l'école, pour aller faire les courses, pour aller se promener. Dire à maman ou à papa de laisser la voiture au garage et de choisir les transports piétons. Après, c'est limiter sa consommation, c'est-à-dire réutiliser, Pas forcément tout le temps vouloir acheter du neuf, mais aussi aller acheter des choses d'occasion pour leur donner une seconde vie et éviter de surconsommer. Éviter, réduire ses déchets dans les gestes du quotidien. Voilà, c'est plein de choses qu'on peut éviter. Et puis préserver la nature en évitant de jeter des choses par terre, dans la rue, quand on se promène. Voilà, c'est plein de, toutes ces petites choses, si tout le monde les fait au quotidien, en fait, ça préserve notre environnement.
Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour sauver la planète ?
Oui, bien sûr, heureusement, il y aura toujours de l'espoir. En fait, la planète, ça fait des milliards d'années qu'elle est ici. Et elle va continuer à vivre sans problème. Après, il faut plus s'inquiéter pour la biodiversité, qui va aller en descendant, en fait, tout le temps.
Oui, si tout le monde s'y met, il y a toujours de l'espoir.
Radio, quand les jeunes royens prennent le micro.
Avez-vous déjà pratiqué le tir à l'arc ?
Non.
Oui.
Non, jamais.
Je crois qu'un de mes petits-fils, je crois, ouais.
Ouais. Comment définirez-vous ce sport ?
Ce sport, moi, je trouve ça bien. Moi, pour moi, ouais, c'est un bon sport.
Alors moi, c'était en CM1 avec un instituteur qui était exceptionnel, qui nous a fait découvrir plein de choses, et notamment le tir à l'arc. Et j'étais assez bonne et j'aimais bien. Alors je pense qu'il faut un peu de concentration, un peu de précision, et puis voilà, vouloir réussir un minimum. Et puis je pense qu'on arrive à atteindre quelquefois la cible.
Tir à l'arc, moi je sais pas, j'ai toujours un peu peur. Dangereux, c'est un peu dangereux l'arc.
Mmh. Ouais.
Et maintenant, nous allons demander l'avis à un professionnel, Monsieur Jeannie Cléret, président de la compagnie d'arc de Roy. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire du tir à l'arc ?
Alors, le tir à l'arc, c'est une tradition qui date des archers royaux qui devaient défendre en fait la ville de Roy. Alors, c'est surtout une tradition qui était présente dans la Picardie. Picardie, c'est le berceau du tir à l'arc. À partir du moment où il est devenu un sport que les compagnies d'arc avaient disparu pour faire la guerre, en fait. Donc c'est devenu un sport. Et être une compagnie d'arc, en fait, c'est l'héritage des archers royaux. Et c'est vraiment un titre honorifique d'être appelé compagnie d'arc. Maintenant, des clubs se sont créés qui n'ont pas valeur aussi honorifique. Ce sont des clubs sportifs. Nous sommes fiers de continuer à garder le titre de compagnie d'arc dans toutes les traditions depuis des centaines d'années.
Quelles sont au sein du club les différentes manières de tirer ?
Il y a beaucoup de façon de tirer à l'arc. Vous en voyez souvent à la télévision. En fait, c'est un tir olympique, on appelle ça un tir olympique, qui se passe sur des blasons, papier, de couleur. Ensuite, vous avez d'autres disciplines qui ont découlé de tout ça. Vous avez alors le principal tir pour les compagnies d'arc, c'est le tir berceau. Héritage donc des archers du roi. Nous avons un jeu d'arc où nous tirons en envoyant une flèche à 50 mètres, en allant rechercher la flèche et en retirant la flèche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on renvoie la flèche. C'est un tir très traditionnel en Picardie. C'est très, très, très important en Picardie. Il y a d'ailleurs un championnat de France de tir berceau.
À qui s'adresse ce sport ?
Alors, ce sport s'adresse à tous, à partir, je dirais, de 8-9 ans, suivant aussi un petit peu la morphologie des enfants. Ensuite, vous avez tous les âges, même les papilles de 75 ans tirent à l'arc, il n'y a aucun souci.
Et du coup, au sein du club, combien il y a d'adhérents ?
Là, avec la pandémie, nous avions eu l'année dernière un petit peu moins de licenciés. Cette année, on est reparti à notre moyenne, qui est d'une cinquantaine de licenciés.
Quels sont les différents temps forts du club ?
Il y en a trois principaux. Le premier, c'est le tir à l'oiseau. En fait, le tir à l'oiseau est traditionnellement tiré avant le 1er mai. C'est un tir qui se pratique dans la Picardie, enfin anciennement Picardie, mais Hauts-de-France et la région parisienne. C'est vraiment un tir traditionnel qui permet en fait d'élire le roi de la compagnie. Alors le titre de roi de la compagnie, c'est un titre honorifique qu'on a pendant un an. Ce titre honorifique permet à l'archer de pouvoir aller tirer le roi de France qui se tire à Vic-sur-Aisne tous les ans au 1er mai. Ensuite, nous avons nos organisations de concours qui se passent sur le territoire de Roye. Nous avons notre tir en salle qui a lieu en fin d'année tous les ans et un tir berceau qui permet à tous les archers de venir tirer dans notre beau jeu d'arc. Et ces deux compétitions permettent aussi aux archers de pouvoir se qualifier pour participer au championnat de France ou tir en salle ou le championnat de France berceau.
Campus Amiens, 87.7 FM.
Radio, quand les jeunes royens prennent le micro.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, aujourd'hui on aimerait vous parler d'un sujet important qui nous concerne tous, le gaspillage alimentaire. Oui, c'est un sujet qui nous parle tous au quotidien. En France, chaque habitant gaspille environ 150 kg de déchets, dont 20 kg de déchets alimentaires chaque année, ce qui correspond à 240 euros de gaspillage tous les ans.
C'est énorme!
Oui, énorme! En effet, environ 3 milliards de tonnes de CO2 sont rejetées à cause des aliments que nous jetons chaque année. Et pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l'État a mis en place des lois avec des sanctions renforcées pour les entreprises si elles jettent des aliments emballés encore consommables. Ils seront contraints de payer une amende. Le montant de l'amende varie selon l'importance de la quantité des déchets.
Vaut mieux que les entreprises ne gaspillent pas, je pense. Enfin, si, bien sûr, ils tiennent à leur argent.
Tu savais qu'il existe des associations comme les Recyclettes ou Hop Hop Food qui luttent contre le gaspillage alimentaire ?
Oui, il y a aussi les Restos du Cœur qui récupèrent les invendus de Lidl. D'ailleurs, nous avons rencontré Madame Desjardins qui nous l'a expliqué.
Nous sommes avec Madame Desjardins, une bénévole active des Restos du Cœur de Roye, et nous allons parler du gaspillage alimentaire. Quelles sont vos missions au sein du Resto du Cœur ?
C'est-à-dire qu'on donne, c'est pas à manger, on ne fait pas que ça, on donne aussi des vêtements, on a une vestiaire, mais c'est surtout pour l'alimentation. Mais c'est une aide que les restos apportent, et pas, c'est pas un truc acquis. Il y a une inscription, donc il y a un barème à respecter, et suivant le barème, si les gens rentrent dans le barème, à ce moment-là, ils viennent au Resto du Cœur.
Et combien y a-t-il de bénévoles au Resto du Cœur ?
On est 13. Ça dépend. Là, en ce moment, c'est la campagne d'été, qu'on appelle ça. Donc, on ne sert que tous les 15 jours. Tandis que l'hiver, on est 14, des fois, ça dépend. On peut appeler des gens pour venir nous aider. Voilà.
On est venu vous voir car on réalise un sujet sur le gaspillage alimentaire et nous avons appris que vous récupériez les invendus de Lidl. Comment ça se passe ?
Voilà, mon mari, chaque matin, à 8h30, il arrive à Lidl et là, les caddies sont prêts avec tout ce qu'ils n'ont pas pu vendre. Donc, tous les matins, il fait ça. Il revient au local des restos et là, il fait le triage. Parce qu'eux, ils donnent ce qu'ils n'ont pas pu vendre, forcément. Donc, il y a des pommes qui sont abîmées, des oranges. Mais on n'a que des fruits et des légumes. On n'a jamais autre chose. Là, ça n'est que ça.
Le faites-vous avec d'autres magasins ou est-ce exclusivement avec Lidl ?
Ben là, non, pour mal faire. Enfin, on ne fait qu'avec Lidl. Parce que l'épicerie sociale, je crois qu'elle travaille avec Intermarché ou d'autres magasins. Donc nous, on ne fait que Lidl. Peut-être que ça viendra, qu'on aura les autres, on ne sait pas.
Et est-ce que les autres Restos du Cœur dans la France font la même chose ?
Oui, on est tenu de le faire. si on a des magasins qui nous offrent la marchandise, on est tenu d'aller la chercher.
Ah oui. Combien il y a de bénéficiaires
à l'hiver? On en a une centaine, quoi, de familles, hein, je parle de familles.
Quel est le profil des bénéficiaires?
On a un peu de tout, hein. On a surtout beaucoup de personnes seules. En majorité, des personnes seules. Parce que, par exemple, une famille de 6, c'est très rare. On n'en a qu'une. On n'en a qu'une parce qu'ils ont des enfants, ils ont des allocations, donc forcément. Et c'est surtout des une. Un peu, là, cette année, on a des 2 et 3. Mais 4, 5, 6, ça, c'est insignifiant, quoi.
L'âge des bénéficiaires?
Dans les une personne, on a tous les âges. On a des jeunes, on a des personnes âgées. Et puis dans les deux personnes, pareil, hein, c'est surtout des jeunes avec un enfant.
Pourquoi vous êtes devenue bénévole au Resto du Cœur?
C'est-à-dire que ma retraite, comme j'étais commerçante, j'avais l'habitude de bouger. J'ai dit, je ne peux pas rester comme ça, rien faire. Et puis, c'était mon futur mari, finalement, j'ai rencontré, parce que j'étais veuve à 38 ans. Et j'ai rencontré mon mari, là, le deuxième, si vous voulez, là. Alors, et puis finalement, j'ai dit, un jour, je suis arrivée là au resto, j'ai dit, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Tu viens, je ne sais plus si c'était jeudi ou je ne sais plus, tu viens, puis tu verras comment ça se passe. Finalement, ce jour-là, on m'a embauchée. Puis depuis ce temps-là, je suis là-bas, j'ai fait une dizaine d'années.
Merci Madame Desjardins pour cette superbe interview.
Pour moins gaspiller, mieux vaut passer par des producteurs locaux car le temps entre la récolte et la consommation est plus court. La distance parcourue par les produits est également réduite, ainsi que le temps dans les transports, car ils passent directement du producteur au consommateur en passant par beaucoup moins d'étapes que les aliments de grande surface.
Les pesticides et les traitements pour la peau sont évités. Les aliments sont donc de meilleure qualité pour notre santé.
Le gaspillage d'énergie est aussi moins important, car les fruits ne sont pas dans des chambres de conservation.
Toutes ces raisons font que pour notre santé ou pour l'environnement, il est préférable de consommer des aliments locaux.
Nous sommes donc allés dans les rues de Roa pour poser des questions aux habitants.
Est-ce que chez vous, vous faites attention au gaspillage alimentaire?
Oui, tout à fait, on ne jette rien.
Et combien, du coup, vous pensez gaspiller par an?
Rien.
En moyenne, un habitant, ça jette 150 kilos de...
Pardon. Non, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, la bouffe, il ne faut rien acheter, c'est tout. Moi, je les composte. Jeter à la poubelle, maintenant, on a zéro déchet niveau jeté à la poubelle.
Donc, est-ce que vous privilégiez plutôt les achats locaux ou les achats dans des magasins et supermarchés?
Alors, si je peux effectuer des achats locaux, je fais les achats locaux, donc en centre-ville. C'est vrai qu'en plus, il y a un nouveau commerce avec des légumes, etc., qui est assez sympa. Selon ce qu'on a besoin, moi, j'habite pas forcément sur la ville. J'habite en extérieur dans un petit village et là oui par contre là j'avoue que j'ai mon petit boucher, après c'est certains supermarchés mais c'est pareil, c'est sur place aussi donc. Mais c'est vrai que dès que je peux faire des achats locaux je fais.
Et faites-vous attention au gaspillage alimentaire chez vous?
Énormément. J'ai un petit garçon qui va avoir deux ans et demi et j'essaye déjà aussi de l'apprendre sur le gaspillage alimentaire. Donc, j'aime pas jeter. En plus, on peut toujours réutiliser. C'est sûr que sur la durée, on évite. Mais je veux dire, on prépare quelque chose. Le lendemain, on peut refaire autre chose. J'évite tout ça. C'est pareil. Après, même si j'ai du pain ou des choses comme ça qui restent plusieurs jours à la maison, je vais pas forcément jeter. Je vais peut-être le donner aux animaux . J'essaye.
Dans votre vie quotidienne, est-ce que vous privilégiez les achats locaux ou industriels pour vos aliments?
J'ai envie de dire les deux. Ça dépend. C'est moitié-moitié.
Et est-ce que chez vous, vous faites attention au gaspillage alimentaire?
Oui, j'essaie de faire attention au gaspillage alimentaire, oui.
Et vous, combien vous pensez que vous gaspillez du coup par an?
Bonne question, ça. Ça, c'est la question pour... j'aurais envie de dire peut-être 100 kilos.
En moyenne, un habitant, ça gaspille 150 kilos par an.
Donc, à mon avis, c'est peut-être plus ça, mais je suis pas si mal que ça. 100 kilos, c'est pas évident. Ok, ça marche.
Merci beaucoup.
De rien.
Est-ce que vous privilégiez plutôt vos achats dans le local ou dans les grands magasins?
Surtout le local.
Et faites-vous attention au gaspillage alimentaire chez vous?
Énormément.
Et vous pensez qu'un habitant gaspille combien de kilos de déchets par an?
On doit être aux alentours des 100 kilos.
On est à 150 kilos par habitant par an.
Mais pas pour moi.
Privilégiez-vous les achats locaux ou industriels dans votre vie quotidienne?
Locaux.
Et est-ce que chez vous, vous faites attention au gaspillage alimentaire?
Toujours.
Et à votre avis, combien de kilos vous pensez gaspiller par an?
Je sais pas, mais je dirais sur toute l'année, il y a 365 jours, on va dire quoi, 15 kilos.
En moyenne, en habitant, ça jette 150 kilos par an.
Ah bah tu vois. Mais moi, je ne jette rien, remarque. Je suis une grande récupératrice, c'est inimaginable, aussi bien au point de vue alimentaire qu'au point de vue autre pour refaire des choses. Du genre, rien que les rouleaux de papier water. Je m'en sers pour faire des jumelles, par exemple, pour mes petits-enfants. Ils sont très heureux avec ça.
Maintenant, vous savez quoi faire pour moins gaspiller et mieux manger.
Radio, quand les jeunes royens prennent les micros.
Radio, quand les jeunes royens prennent les micros.